chronique d'Occulte Racine sur Radio Ranciel avec Lynn. Suite, chapitre 11. La maison qui n'aimait pas les enfants. La soirée n'était pas tout à fait finie. Quelque chose d'extraordinaire pouvait encore se produire. Et c'est exactement ce qui arriva lorsque Méline eut rejoint sa chambre et que la vieille mégère l'eut enfermée à double tour. Elle sortait de sous le lit le jeu de cartes qu'elle s'était fabriqué avec les pages des cahiers et les stylos noirs, quand elle entendit un bruit dans la chambre, derrière elle, en provenance de la commode, ou plus précisément du dessus de la commode.
« Couac !»«
Comment es-tu rentrée ?»«
Couac, ici !»
La fillette soupira. Pourquoi s'entêtait-elle à lui poser des questions auxquelles il répondait toujours de la même manière ? Puis une étincelle apparut dans son regard. « Tu viens de la serre ?»«
Oui. Elle envoyait couac. »«
Qui ça ? La prasine ? C'est la vieille qui t'a dit de venir ?»«
Non. Elle te voir. Elle te montrer. »
Toujours la même rengaine. « Mais de qui tu parles ? Qui veut me montrer quoi ? Et me voir où ?»«
Là-bas. Me suivre. »
On retourne dans la serre ?
Là-bas.
Le chat borgne sauta fièrement vers le lit, le manqua de beaucoup, et se retrouva à moitié sonné au pied de la fillette.
Humain prêt,
ronchonna Croac. Humain prêt, confirma Méline. Ne voyant pas d'autre issue, elle s'imaginait déplacer la chaise pour passer par le Vélux et suivre Croac sur les toits de la ville, quand une lueur verte se mit à leur tourner autour de plus en plus vite. L'air aussi tourbillonna. Il y eut comme un flash aveuglant et dans l'instant qui suivit, ils se retrouvèrent loin de Paris, loin de la Prasine et de cette chambre de bonne aux allures de prison. Méline n'y connaissait rien en botanique, mais elle devinait que la plante devant laquelle ils venaient d'apparaître n'avait rien de banal. Déjà parce qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil. Si elle avait dû lui donner un nom, elle l'aurait appelé le buisson niche. Deux troncs la serraient, recourbés l'un vers l'autre en arceaux, formant un espace parfait pour qu'un petit chien ou un chat s'y installe et fasse une sieste. L'arbuste produisait des feuilles guère plus grosses que des feuilles de tomates, dont certaines abritaient sous leur aisselle de jolies graines cousues d'or et de reflets mordorés. Des graines habitées d'une petite lumière, d'une lueur vivante. En les voyant, Méline porta instinctivement une main à sa gorge. Aucun doute, ils étaient de retour dans la serre. À en juger par les haies alentours, ils étaient même dans le labyrinthe. La fillette sentit ses poings se desserrer et sa mâchoire se détendre. Tout cela lui était tellement familier et rassurant, elle qui avait eu si peur de ne jamais revenir. Elle était presque contente d'attendre Croac et terminer de se rouler dans le feuillage avec cet air ahuri et l'extrémité rose de sa langue dépassant des babines. « Elle nous rejoint ici ?»«
Hein ?»« Non, » s'étonna le chat. « Elle, en bas. »« Ben, me suivre. »
Lui aussi connaissait le dédale sur le bout des coussinets et lui aussi semblait vouloir semer la fillette à progresser si rapidement d'un passage à l'autre. Le parcours était différent, mais la destination identique. Dans l'ombre imposante du tronc central, une impasse. Au fond de l'impasse, de buis, un aubépieur gigantesque, toujours aussi inquiétant et inquisiteur. Le chat s'approcha, les branches s'écartèrent et le tunnel de verdure les guida jusqu'à l'entrée de l'escalier en zigzag. Croac avait une définition toute personnelle des mots « en bas ». Parce qu'à l'évidence, il montait à nouveau vers les quartiers de Galael, tout en haut de la tour. C'est donc sans surprise que la fillette se retrouva sous la coupole carapace à observer la lune qui se tenait à moitié cachée derrière un nuage. Le chat fonça droit vers le kiosque, sans s'inquiéter d'être remarqué. Mais Méline s'attendait à voir le vieil homme surgir de n'importe où. Elle le guettait, mais il n'était pas là. Son drôle de parfum ne flottait pas dans l'air. Il n'y avait aucun bruit à l'étage. Personne. Elle n'avait pas visité le kiosque lors de sa précédente visite. Elle n'avait pas osé s'approcher tandis que les adultes discutaient. Mais vu de près, l'endroit était singulier, pour ne pas dire effrayant. À l'intérieur,
12 miroirs ovales de 2 mètres organisés en ronde, chacun rempli d'un hologramme verdoyant représentant un humain en train de dormir, ou de se baigner, ou les deux à la fois. C'était une image saugrenue, mais c'est ainsi qu'elle les voyait. Tous les corps étaient figés dans cette glace verte, certains couchés sur le côté, comme s'ils dormaient debout devant elle, derrière une vitre. Des hommes, des femmes, des vieux et des plus jeunes. Elle s'arrêta tout à coup. Celui-ci, elle le connaissait, le jeune homme qu'elle avait vu dans son Arakli quand elle cherchait Damien. Le jeune qui s'était endormi avec sa salade de fruits à la main lors de la fête. Il avait l'air en meilleure forme et il paraissait moins maigre, ses traits étaient moins tirés, mais qu'est-ce qu'il faisait là, enfermé dans cet hologramme ? « Me suivre !» râla Croac. L'un des ovales était couché au sol, face contre terre, ouvrant l'accès sur un escalier dérobé. Le chat s'y précipita sans s'attendre. Cet escalier-ci descendait en colimaçon, en une spirale serrée et régulière. Monter, descendre. Méline ne comprenait plus du tout la logique du parcours. Surtout que cet escalier-ci lui donnait le tournis. Elle dut aménager quelques pauses au long du trajet pour ne pas rendre son dîner. Parce qu'il était vraiment long cet escalier, il ne s'arrêtait jamais. Il n'y avait que la clarté pour changer, pour prendre une teinte de plus en plus verte, mais de moins en moins lumineuse. À ce stade, les parois ne dégageaient plus qu'une lueur glauque à peine suffisante pour voir les marches suivantes. Une odeur de champignons, de terre et de pierres mouillées commençait aussi à se faire sentir. Heureusement, le supplice de la descente trouva enfin à s'achever. Une dernière pause et elle fut prête à repartir. Ils étaient désormais dans un tunnel terriblement sombre et malodorant, comme une cavité rocheuse ou creusée sous la terre. Les plafonds ruisselaient au goutte à goutte du bout des stalactites sur le sol glissant. Une lumière toujours plus verte et plus faible les attirait au fond d'un passage sur la droite. Pendant un instant, Méline ne vit plus Croac et son cœur s'emballa. Elle regarda en arrière, tourna vers le bout du tunnel, paniquée. Elle n'y voyait plus rien, d'aucun côté, n'entendait que le bruit de ses chaussures dans les flaques. Elle s'apprêtait à l'appeler quand elle vit un œil briller dans l'obscurité. « Se cacher là, lança-t-il, lui venir par ici. » Désarmée, la petite fille suivit le chat au fond d'une anfractuosité humide. Un pas agacé s'approchait effectivement. Une voix se leva tout d'un coup, que la fille reconnut aussitôt. « Je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait descendre, maugréait Galaël. » « Pour vérifier, expliqua le crapaud d'une voix stridente, je croyais vraiment avoir senti quelque chose. » Leur discussion continua, entre désapprobation et justification, et le tandem s'éloigna tout doucement en direction de l'escalier dans la lueur chaude d'une lanterne. Dès qu'ils furent assez loin, le chat sortit de sa cachette pour se remettre en route vers les profondeurs. « Attends !» susurra-t-elle du plus fort qu'elle put. Par chance, la lumière s'intensifiait à nouveau. Le mur commençait à briller çà et là sur sa gauche. De fines lézardes zébraient la paroi d'un vert extrêmement brillant, à la manière de filons d'émeraude émettant cette lueur si caractéristique. Rien de l'autre côté, seulement sur sa gauche. Mais l'aura verte venait aussi du fond du tunnel, nimbant le passage à la manière d'un phare guidant les navires dans la nuit. Ses chaussures avaient pris l'eau, son pantalon mouillé lui glaçait les mollets, ses bouts de doigts étaient gelés et elle en avait marre de marcher. Mais la curiosité la menait sans cesse plus loin. De petites fissures, les raies d'émeraude s'étaient transformées en plaies béantes, balafrant littéralement le mur. D'ailleurs, était-ce vraiment un mur ? Plus la lumière accroissait, plus elle le voyait renflé et d'une texture plutôt étrange, semblable à de l'écorce d'arbre ou à une graine de racine. Oui, une racine géante. Il lui semblait qu'il longeait une racine géante. Un peu plus loin, la silhouette du chat se devinait clairement, son reflet bondissant de flaque en flaque avec une agilité qu'elle ne lui reconnaissait pas. Yeah.
Elle avait demandé si c'était encore loin quand un spectacle incroyable se présenta devant elle. Très large et très haute, une grotte s'étendait à perte de vue, occupant l'espace au sol, un lac dont elle ne voyait pas la fin, brillant, lumineux, puissamment lumineux, d'un vert plus intense que jamais. La fillette ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Cette eau calme, sans onde en surface, semblait éclairée de l'intérieur. Toujours sur sa gauche, Méline distingua la racine géante qui se détachait à présent de la paroi rocheuse et plongeait directement dans le lac. Qu'est-ce que c'est ? Interrogea la fillette dans un souffle, tandis qu'elle s'approchait du bord.
Elle,
répondit simplement le chat. Elle te montrait. Comment ça ? C'est l'eau qui doit me montrer quelque chose.
Pas eau. Elle, source.
Source ? Source de quoi ?
Source. Elle te montrait.
Mais la petite fille avait beau se pencher sur l'eau, elle ne voyait pas son propre reflet. Il n'y avait pas non plus de fond à observer que ce liquide vert d'une clarté hypnotique. Elle n'était pas rassurée, mais elle mourait d'envie d'y toucher. C'était plus fort qu'elle. C'était si beau, si captivant.
« Humain, boire !» lança Croac.
Puis il précisa
« Une goutte !»
Non, ce n'était pas de l'eau. Ça ne bougeait pas comme de l'eau, ça ne bougeait pas du tout, ça ne coulait pas, pas vraiment, ça lui filait entre les doigts, mais sans éclabousser.
« Une goutte !» répéta le chat.
« D'accord !» fit Méline dans un état d'admiration totale. C'est ainsi que les lèvres de la petite Méline Orban rencontrèrent pour la première fois la source. Ce que ses mains pouvaient contenir, elle l'aspira d'une traite. La voyant faire, le chat sortit les griffes, mais il était trop tard. Elle avait tout avalé. Un instant, elle crut avoir bien fait. Mais l'instant d'après, son corps se mit à hurler de l'intérieur sans produire le moindre son. Elle ne pouvait plus parler, plus crier. Elle se releva, trébucha et tomba à la renverse, raide comme la pierre, la bouche et les yeux grands ouverts. La douleur était si violente, elle crut que la fin était proche, que son cœur, son esprit, son corps tout entier allait lâcher. Il fallait forcément qu'il y ait une issue, que tout s'arrête, d'une façon ou d'une autre. Mais le feu, en elle, ne la quittait plus. Les secondes de torture devinrent des minutes de tourment. Et le plus malheureux à dire, c'est que le calvaire de la fillette ne faisait que commencer. Des profondeurs du lac, une ombre montait lentement vers la surface. À mesure qu'elle s'approchait de la berge, le flou se dissipait peu à peu. C'est à cet instant que Croac décida de prendre la fuite, s'échappant à toute allure de la grotte sans un regard derrière lui. Au même instant, Arès Varkoda sortait de sa voiture et rejoignait Martin sur le bord de la route. Tu es sûr que c'est ici ?
Absolument sûr, attesta Martin.
Ce sont les coordonnées. Nos hommes et nos caméras encerclent tout le bois. Personne ne sortira d'ici sans qu'on le voie. Dans la nuit froide, Arès referma sa veste. Les deux hommes faisaient face à des rangées de troncs alignés comme des côtes-barres dans la lumière des phares.
Et on sait à qui est cette forêt ?
Martin confirma.
Dans ce cas, commencez à raser les arbres.